Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent. C'était le message hier du président français Emmanuel Macron à l'UE, alors que se tenaient dans le pays des rassemblements d'une ampleur historique contre le chef de l'État biélorusse Alexandre Loukachenko.
Comment reconstruire quand on n'a plus rien? Une ONG aide les familles libanaises les plus modestes à réaliser les travaux qui s'imposent après l'explosion meurtrière du 4 août dernier. Reportage à Beyrouth.
Cette maladie touche 200 millions de personnes par an. Le paludisme pourrait se propager car la résistance au principal médicament antipaludéen progresse. Explication de notre spécialiste santé à suivre.
Contre la Covid-19, le port du masque s'impose de plus en plus et pourrait être bientôt obligatoire en entreprise. La CFE-CGC s'agace d'un coup de com' du gouvernement et déplore un changement de doctrine.
L'achat de masques fortement recommandé dans les universités alourdit le coût de la rentrée des étudiants, en hausse cette année de 3,2% selon le baromètre de la FAGE.
L'une vient de l'extérieur, l'autre de l'actuel PDG de Camaïeu. Deux offres de reprise de l'enseigne de prêt-à-porter divisent les salariés.
Et on devrait savoir aujourd'hui quelle offre a retenu le tribunal de commerce de Lille. Les manifestations en Biélorussie pourraient faire date. Les rassemblements de l'opposition hier étaient parmi les plus grands de l'histoire du pays. 200 000 manifestants, selon des médias indépendants, se sont rassemblés dans la capitale, Minsk, et dans des dizaines de villes. Comme depuis une semaine, ils réclament le départ de leur président fraîchement réélu, l'autoritaire Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994 et souvent qualifié de dernier dictateur d'Europe. La contestation a notamment gagné Mogilov, la plus grande ville de l'Est du pays. Elle se situe près de la frontière avec la Russie, Antoine Balandra.
C'est au pied de la statue de Lénine, en plein centre-ville, que les manifestants se sont rassemblés. Parmi eux, Natacha, 34 ans, et mère de deux enfants.
Tu ne peux même pas t'imaginer l'atmosphère. C'était la fête, comme au Nouvel An. Je n'ai jamais vu autant de visages souriants. Des drapeaux blancs, rouges, blancs partout. Des gens qui s'offrent des fleurs, des ballons, une ambiance amicale. Bref, une vraie fête.
La ville très industrielle de Mogilov, 500 000 habitants, s'est particulièrement mobilisée contre le président Loukachenko. Des dizaines de milliers d'habitants sont venus crier « Oukhadi » part au président en poste depuis maintenant 26 ans.
L'espoir en premier lieu, c'est d'avoir de nouvelles élections et d'avoir ensuite un gouvernement réellement choisi par le peuple.
Et même à Mogilov, ville pourtant située à une petite centaine de kilomètres de la frontière russe, la crainte d'une intervention de la Russie était finalement la seule inquiétude venue gâcher un peu ce jour de fête.
Et il faut continuer de se mobiliser, a insisté Emmanuel Macron hier soir. Le président français appelle l'Union européenne à soutenir les centaines de milliers de Biélorusses qui, dit-il, manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. À Bâle, la dictature, ont crié hier des milliers de manifestants pro-démocratie réunis cette fois en Thaïlande. Au moins 10 000 personnes se sont rassemblées à Bangkok, des jeunes, des étudiants, des enseignants qui réclament une réforme de la monarchie. Nous en avons parlé tout à l'heure dans la revue de presse internationale. Elle est à retrouver sur franceculture.fr. Au moins 10 civils et un policier sont morts hier en Somalie. Un hôtel de Mogadiscio a été attaqué par des djihadistes somaliens Shebab, selon les autorités du pays. Les forces de sécurité ont mis 4 heures à reprendre le contrôle de l'établissement, très fréquenté par les dirigeants. Les Libanais pourront bientôt obtenir des visas pour la France. Paris va recommencer à en délivrer par solidarité, à titre exceptionnel, près de 2 semaines après l'explosion meurtrière à Beyrouth. Sur place, l'émotion est toujours vive, mais l'urgence est de reconstruire. Ça et là, il faut remplacer une porte détruite, des fenêtres brisées. Les travaux ont un coût et certains habitants n'ont pas les moyens de les payer. Sur place, Aurélien Colli.
Ici, comme vous trouvez, il y a beaucoup de dégâts.
Arpenter les maisons et les appartements dévastés par l'explosion, c'est devenu le quotidien d'Edgar.
Il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas de portes, les murs sont tous cassés, il n'y a rien.
Volontaire pour l'ONG Libanese for Tomorrow, il va à la rencontre des familles les plus modestes, sans moyens pour déblayer ou faire les premiers travaux urgents.
On va évaluer les dégâts et après, on va amener de l'aluminium, des vitres, du ciment, il faut apporter tout.
Dans son logement en ruine, où tout a été soufflé, Nada suit patiemment l'inspection de l'ONG. Cette veuve de 50 ans, mère de deux enfants, est sans revenu.
J'ai perdu toute ma maison. tout. Alors, je ne peux rien faire. Je n'ai pas du tout les moyens pour faire tout ça. Non, je ne peux pas faire ça toute seule.
Comme nombre de Libanais, Nada est en colère, car depuis l'explosion du 4 août, pas un seul responsable politique ou service de l'État libanais n'est venu dans son quartier, pourtant l'un des plus touchés.
Personne n'a frappé notre porte et nous a dit « Vous avez besoin à quelque chose ? Vous avez vu ma maison ?» C'est ça que j'ai besoin. Pas de la nourriture, un grand merci pour tout le monde. Mais je voudrais une maison.
Dans tout Beyrouth, 80 000 logements auraient été plus ou moins endommagés par l'explosion du 4 août. Cette ONG en a déjà recensé plus d'un millier, avec des besoins urgents que les habitants ne peuvent pas prendre en charge.
Aurélien Colli, à Beyrouth pour France Culture. La campagne américaine s'organise malgré la pandémie. La convention des démocrates s'ouvrira aujourd'hui entièrement sur Internet. Les intervenants ne se déplaceront pas alors que la ville de Milwaukee dans le Wisconsin s'apprêtait à accueillir l'événement à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. En Nouvelle-Zélande, les élections législatives sont reportées de 4 semaines, toujours à cause de la pandémie, pour donner le temps à tous les partis de faire campagne et s'assurer que le scrutin puisse avoir lieu. La Nouvelle-Zélande n'a enregistré aucun nouveau cas de coronavirus pendant plus de 100 jours avant de connaître un rebond au début du mois. Auckland, la principale ville du pays, est reconfinée jusqu'à la semaine prochaine. La pandémie de Covid-19 a éclipsé un autre enjeu sanitaire, la lutte contre le paludisme, l'une des maladies parasitaires les plus dangereuses au monde. Elle fait chaque année 200 millions de malades qui se trouvent en Afrique 9 fois sur 10. Il y a un traitement, mais plus le temps passe, plus la résistance aux médicaments progresse, au point que le traitement le plus répandu pourrait devenir inefficace. Pour la première fois, des chercheurs ont détecté cette résistance en Afrique, justement, Tara Schlegel.
L'artémisinine est une sorte de médicament miracle, capable d'éliminer quasiment 99% des parasites du genre Plasmodium, responsable du paludisme. Or, depuis plusieurs années, la résistance à ce traitement progresse. En 2014, les chercheurs de l'Institut Pasteur du Cambodge ont découvert la mutation génétique qui permet à ces parasites de résister aux médicaments miracles. Si cette mutation est longtemps restée cantonnée à ces pays d'Asie du Sud-Est, elle vient d'être mise en évidence en Afrique. Didier Ménard, l'un des principaux auteurs de l'article paru dans Nature Medicine, a étudié des échantillons sanguins venus du Rwanda.
On a trouvé dans un site en particulier, on a trouvé entre 7 et 8% de parasites résistants, ce qui est déjà important. Quand on a fait notre étude en 2016 sur la cartographie mondiale, j'ai eu des prélèvements du Rwanda, je n'avais pas de parasites résistants, aucun. Donc en fait, c'est le début de l'histoire.
Au Cambodge, la mutation génétique n'a mis que 15 ans à s'étendre à 100% des parasites responsables du paludisme. Il a fallu utiliser de nouveaux médicaments. Il est donc urgent de cartographier en Afrique où et à quel rythme la résistance progresse. Pour l'instant, l'artémisinine est systématiquement combinée à d'autres molécules, partenaires, qui marchent encore. Mais jusqu'à quand ? Une nouvelle forme de résistance pourrait se développer. Il faut donc que les laboratoires du monde entier travaillent sur des thérapies radicalement neuves, car le paludisme tue 400 000 personnes chaque année. C'est avec le sida et la tuberculose la maladie la plus mortelle au monde.
France Culture, 8h08, Margot Delpierre. Plus de 3000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France hier.
Et c'est encore une fois un seuil inédit, précédemment atteint au mois de mai. En revanche, le nombre de patients en réanimation est stable, mais les autorités redoutent toujours une deuxième vague à la rentrée. Pour l'éviter, le gouvernement pourrait rendre obligatoire vers la fin du mois le masque en entreprise. La proposition sera soumise demain aux partenaires sociaux. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, souhaiterait le voir systématiquement porté sur le lieu de travail. Elle va aussi réinterroger le ministère de la Santé ainsi que le Haut Conseil de la Santé sur la question des open space. Pour François Auméril, secrétaire général de la CFE-CGC, ce discours contredit celui tenu il y a encore quelques semaines.
Cette histoire de masque, c'est quand même beaucoup de la communication. Il faut avoir de la mémoire. Quand nous réclamions d'avoir des masques au mois d'avril, le gouvernement nous disait: j'en ai l'exacte mémoire. Les masques, vous n'en avez pas besoin, ça n'est pas utile. Enfin, il faut regarder ce que disait la porte-parole du gouvernement, qui disait: mais moi, le masque, je ne sais même pas le mettre, c'est trop compliqué, c'est trop technique. Monsieur Pietraszewski nous disait: la doctrine du gouvernement, c'est la doctrine de l'OMS. Le masque est réservé pour les soignants et pour les gens malades. Donc aujourd'hui, la doctrine, elle a changé. Parfait. Moi, je veux bien m'y soumettre. Je fais confiance aux gens qui conçoivent, qui élaborent la doctrine sanitaire. Mais nous, on est capable de la comprendre et de l'interpréter. Il faut nous faire confiance dans les entreprises. Je trouve qu'on a été beaucoup résilients, beaucoup conciliants. Et j'aimerais bien que de son côté, le gouvernement comprenne aussi que sa place n'est pas à l'endroit d'imposer à toutes les entreprises de manière uniforme des mesures qui ne seront pas comprises et qui seront très très difficiles à mettre en œuvre.
François Auméril, secrétaire général de la CFE-CGC. Ajoutons qu'en Italie, le masque est rendu obligatoire le soir dans les lieux publics. Les boîtes de nuit en plein air doivent fermer. Par ailleurs, un grand navire de croisière a repris la mer, le premier depuis le début de la crise sanitaire. Il a quitté hier le port de Gênes avec 2500 passagers à bord. Au stress de la rentrée en pleine pandémie s'ajoute le prix. La rentrée universitaire coûte toujours plus cher en France, selon le baromètre établi par la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. D'après elle, un étudiant devra débourser en moyenne 2361 euros pour sa rentrée à la fac, soit une hausse de plus de 3% par rapport à l'an dernier, Faustine Calmel.
Pour Cécile, en licence informatique au Mans, la rentrée, c'est d'abord
une grosse appréhension.
Avec 100 euros sur son compte en banque, elle va avoir du mal à refaire ses stocks de fournitures scolaires, 256 euros en moyenne.
Racheter des cartouches d'encre, tout ce qui est papier, crayon, tout ça. Normalement, je devrais avoir un ordinateur, mais j'ai réussi à m'en faire prêter un. Donc ça va être déjà une épine qu'on m'enlève du pied.
Pour le logement et l'alimentation, Cécile attend avec impatience sa bourse. Comme Pierre, étudiant lui à Strasbourg, son plus gros poste de dépense, c'est son studio, puis se nourrir.
On va faire le grand plein quand je vais retourner à Strasbourg. Donc là, ça risque de coûter un petit peu cher, mais au moins, le frigo sera à nouveau plein et je pourrai me réhabituer à un rythme alimentaire d'étudiant.
Des pâtes et du riz, poursuit le jeune homme qui remplira son chariot grâce à son job d'été. Pour les loisirs, il table sur un budget limité par la crise sanitaire. Crise qui va, en revanche, engendrer de nouvelles dépenses, en masques notamment.
Si la fac me dit vos masques en tissu personnalisés, ils sont bien jolis, mais il nous faut des masques chirurgicaux, bah oui, ça comptera dans mon budget. Mais sur ça, je pourrais toujours avoir ma famille qui pourra me passer un coup de main si je me retrouve un peu juste.
Des masques qui pourraient coûter aux étudiants, selon les calculs de la FAGE, 31,75 € par mois, l'équivalent de 10 repas au Resto U.
Dans un article du New York Times, Christophe Girard est accusé d'abus sexuels. Des allégations graves et sans fondement, assure l'ex-adjoint à la maire de Paris. Un homme affirme au quotidien américain avoir été entraîné par Christophe Girard dans une relation abusive quand il avait 15 ans. Relation qui aurait duré près de 10 ans et lui aurait laissé des blessures psychologiques durables. L'avocate de Christophe Girard engagera des poursuites judiciaires contre l'article pour dénonciation calomnieuse. L'inquiétude grandit chez les salariés de Camaïeu. On devrait connaître aujourd'hui le nom du repreneur de l'enseigne de prêt-à-porter en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Lille rend sa décision. 7 offres ont été déposées, 2 semblent se détacher, mais elles divisent les 3000 salariés, Annabelle Grelier.
Il y a le camp du PDG actuel qui s'est associé à 3 fonds d'investissement déjà actionnaires. L'offre prévoyait en juillet la reprise de 1948 emplois et 367 magasins. Pour rappel, Camaïeu comptait en mars 3900 salariés et 634 boutiques. Cette offre est soutenue par le syndicat Maison, uni pour agir ensemble, qui est le syndicat majoritaire. Une autre offre a été déposée par la foncière immobilière bordelaise de l'homme d'affaires Michel Ouaillon, prévoyant de reprendre 500 magasins et 2649 salariés. Sur le papier, c'est la meilleure. L'intersyndicale CFDT, CGT et Force Ouvrière l'affirment. Elle maintient plus d'emplois et de magasins. C'est un projet d'entrepreneur, de commerçant et pas une offre de financier. Un vrai projet, disent-ils, et ils estiment représenter à eux 3,70% des salariés. L'autre camp préfère s'en remettre à l'ancienne équipe, celle-là même qui les a menés à la faillite et pire encore, selon l'intersyndicale, qui l'aurait organisé. Les représentants syndicaux disent posséder des documents, des mails, qui prouveraient que l'actuelle direction de Camaïeu France aurait emmené directement les filiales belges, suisses et luxembourgeoises à la faillite en en vidant les comptes bancaires. Le PDG de Camaïeu a beau démentir, rien n'y fait. Les syndicats menacent. Si le tribunal choisit son offre, ils l'attaqueront pour faillite frauduleuse. Ils réclament en attendant l'ouverture d'une enquête judiciaire.
Annabelle Grelier. François Bayrou sera bientôt nommé haut-commissaire au plan. Ce devrait être officiel en septembre, selon les informations de France Inter. Le maire de Pau et ancien garde des Sceaux sera chargé d'incarner le retour de la souveraineté économique française après la crise sanitaire de la Covid-19. Les averses localement orageuses vont se poursuivre sur la moitié nord de la France. Ailleurs, le temps devrait s'améliorer aujourd'hui. Comptez au maximum cet après-midi 20 degrés à Brest, 22 à Lille et Paris, 27 à Lyon, 24 degrés à Bordeaux et 30 à Marseille.